à visage découvert. L'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.
Mesdames, Messieurs, bonjour et très très ravie de vous retrouver sur Radio Orient. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information à visage découvert. C'est un moment exceptionnel pour passer au peigne fin, oui, l'émission qui dévoile la face cachée et le parcours des personnalités qui vous représentent et qui nous représentent au sein des institutions de la République. Et dans ce rendez-vous, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Pierre-Yves Bournazel, qu'on connaît, que vous connaissez, à travers nos ondes, mais aussi à travers les médias. C'est un homme très présent et très impliqué sur le terrain. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Nadia.
Alors Pierre-Yves Bournazel qui a accepté, il faut le dire, de se prêter au jeu de la transparence. Alors vous allez le découvrir avec nous. Pierre-Yves, je le disais, vous êtes un homme de terrain, donc un élu de terrain. Vous avez été député. Et bien entendu, on n'oublie pas qu'actuellement, vous êtes conseiller de Paris dans l'opposition et dans le 18e arrondissement de Paris. Vous avez rejoint Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui fait l'actu en ce moment. Depuis 2022, vous avez été nommé secrétaire général délégué à la structuration du parti et vous êtes également en charge des élections au sein d'Horizon. Voilà qui nous amène au cœur même de l'actualité pour les prochaines échéances. Vous êtes vous-même donc candidat pour la mairie de Paris, ça on n'oublie pas de le dire, et vous êtes un grand amoureux de Paris, et pourtant j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas parisien puisque vous êtes né dans le Cantal. Après des études de Sciences Po à Toulouse, vous rejoignez Paris dans les années 2000, corrigez-moi si c'est faux. Vous aviez à l'époque à peine 23 ans, et j'ai envie de vous dire d'où vous vient cette passion et cet amour pour Paris.
Je suis un enfant issu d'une région, la Corrèze, et quand on est jeune, adolescent, à Tulle.
Elle a fait des présidents.
La Corrèze a fait des présidents, Chirac et Hollande, effectivement. Et on rêve de Paris, comme je pense tous les citoyens du monde, au fin fond de la Corrèze, au fin fond de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, on rêve de Paris. Paris, c'est une marque en soi. Et j'imaginais... la vie trépidante parisienne, et je suis venu conquérir ma liberté d'homme à Paris, construire ma vie personnelle et professionnelle. J'ai aimé Paris tout de suite parce que pour moi Paris c'était le cosmopolitisme, on croisait tout le monde, des personnes de toutes origines, de toutes conditions sociales, de toutes générations, c'est l'effervescence culturelle, c'est les théâtres, c'est le cinéma, c'est les brasseries, c'est les restaurants, et même, ça paraît anecdotique, mais pour un enfant de la campagne, c'était les appartements éclairés le soir. J'étais... complètement subjugué par ces appartements que je voyais illuminés. Et Paris, pour moi, c'est une promesse de liberté, c'est une promesse d'avenir. Et je voudrais évidemment que Paris reste cette promesse pour tous les enfants du monde.
On va revenir sur le rayonnement de Paris, puisque justement, vous êtes en pleine campagne, puisque vous avez annoncé votre candidature pour Paris déjà en juin dernier. Vous êtes parti trop tôt, j'ai envie de dire.
Je suis parti tôt parce qu'il faut ménager son souffle, il faut être endurant. Et puis quand on aime Paris, il faut se donner à elle.
Alors, vous êtes donc un provincial, il faut appeler les choses par leur nom. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un Parisien?
Ça fait en tout cas un quart de siècle.
À 100%?
J'ai adopté Paris et je crois que Paris m'a adopté et j'en suis très heureux.
Et votre famille, vous êtes issu d'une famille de classe moyenne, on va dire ça comme
oui,
ça,
comme
papa,
beaucoup,
maman hein.
Oui, comme beaucoup de nos concitoyens, dans un territoire, la Corrèze, où on ne vivait pas modestement, mais on ne vivait pas... avec un grand standing, normal, j'allais dire, et j'ai fait ma scolarité à Tulle, au lycée de Montpellier, j'ai eu mon bac, j'ai tissé de belles relations avec des amis que j'ai encore pour la vie, et je suis venu donc à Paris, et à Paris, bien, j'ai découvert la ville, j'ai
découvert un autre monde. L'envie de faire de la politique, Pierre-Yves, est née à quel moment ?
Ça vient de très loin. Mon grand-père avait fait la Seconde Guerre mondiale,
d'accord.
Et il m'a transmis des valeurs. Et notamment l'amour de la République et la démocratie, parce qu'il avait connu l'effondrement de 40, l'occupation, il a été blessé au front, blessé de guerre, et il m'a transmis le goût de la modération, c'est-à-dire...
Vous l'avez connu, il vous a un petit
peu
élevé.
Bien sûr, il a participé à mon éducation, j'allais dire morale et politique.
Vous êtes plus marqué par le grand-père que par le père.
Oui, c'est vrai, parce que mon grand-père m'a transmis le goût de l'histoire, l'amour de la France, et ce combat contre l'extrémisme politique qui peut entraîner le pays dans l'abîme.
Oui.
Et ça reste ancré en moi, et aujourd'hui dans le combat que je mène pour notre pays... Pour Paris, c'est aussi un combat de valeurs, des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais c'est le combat pour défendre notre démocratie qui est menacée par toute forme de populisme, d'extrémisme, de haine de l'autre en fonction de ce qu'il est. Et ça, je l'ai vraiment en moi.
Alors, il y a une exaspération, j'ai envie de dire, aujourd'hui, dans le contexte de tension que nous connaissons. Certains disent que la démocratie est malade en France. Est-ce que la démocratie est réellement malade en France aujourd'hui ?
On parle beaucoup de fatigue démocratique, c'est-à-dire que... On a l'impression que la démocratie est un bien éternel. Non. Malheureusement, on l'a vu dans l'histoire, tout peut s'arrêter, tout peut s'écrouler. Et la démocratie, c'est précieux, parce que, évidemment, ce sont nos libertés, ce sont nos droits, et ils peuvent être menacés. Alors évidemment, la démocratie peut s'essouffler, elle peut être abîmée par des politiques qui...
Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui ? Est-ce que notre démocratie est abîmée
aujourd'hui ? Il y a une fatigue démocratique, parce qu'il y a eu des comportements de politiques qui... voilà, irresponsable, il y a eu des mensonges. Il y a
de politique ou de politicien, Pierre?
Alors, le politicien, c'est celui que j'aime pas. Le politicien, c'est celui qui raconte tout et n'importe quoi, c'est celui qui ment éhontément, c'est celui qui se sert avant de servir. Et je pense qu'il faut revenir à des fondamentaux. La démocratie, c'est servir. C'est pas simple d'assumer des responsabilités pour personne, d'ailleurs. Il faut aussi l'expliquer en permanence. Prendre des décisions, que ce soit à l'échelle d'une ville, que ce soit à l'échelle d'un pays, ce n'est pas simple. Et ça crée forcément des antagonismes et du débat. Et c'est bien, mais il faut se dire que si ça s'arrête, ça sera un régime autoritaire. Et donc, l'antagonisme, le débat, c'est sain aussi.
Est-ce dans que le c'est respect une vitalité des uns des que nous vivons aujourd'hui avec une multitude de premiers ministres, avec des démissions, des premiers ministres qui tombent,
ouais.
Est-ce que le cornu est l'homme de la situation, selon vous, Pierre-Yves?
Écoutez, moi je suis pour la stabilité de manière générale. J'aime bien que les choses soient en ordre de marche. Et donc justement, je respecte la démocratie. Et je souhaite que notre pays aille mieux demain qu'aujourd'hui, parce qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien parce que cette dissolution a été une erreur. C'était une faute, cette dissolution.
Oui, oui.
Une dissolution qui n'était pas justifiée. Ça a amené une assemblée sans majorité, elle est ingouvernable. N'ayons pas peur des mots, c'est la chienlit à l'Assemblée. J'espère qu'il va y avoir un sursaut républicain, que j'appelle de mes voeux depuis...
Il n'a pas la majorité, c'est ça le constat amer.
Non, personne n'a la majorité,
personne
et il faut faire un compromis.
Oui.
Et faire un compromis, ce n'est pas imposer tout son point de vue à l'autre, c'est accepter qu'une partie de son point de vue soit entendue, mais c'est accepter aussi que le point de vue de l'autre soit entendu. Et c'est ça, une grande démocratie. Et je crois qu'on a beaucoup de politiques à l'Assemblée nationale qui ne sont pas dans cette culture du compromis, et en fait, ils ne sont pas dans la culture de la responsabilité.
Surtout. Alors, quand on parle de responsabilité, on a entendu votre patron, bien sûr, Édouard Philippe. Il a été même très loin, je veux dire, en disant qu'il a appelé au départ du président de la République, Emmanuel Macron, et ça a créé une onde de choc, quoi.
Alors, que dit-il exactement, Édouard Philippe? Il dit, dissolution, c'est pas une solution, parce que dissolution, c'est probablement amener... l'extrême droite au pouvoir ou une nouvelle assemblée sans majorité et donc amener le pays vers l'abîme et le chaos.
Mais la démocratie passe par les urnes,
oui, mais justement,
Pierre-Yves Bournazel, justement. Donc, il faut oser et prendre ce risque.
Mais justement, il va au bout d'un raisonnement. Il dit la dissolution, on l'a eu il y a un an.
Oui.
On a voté il y a un an pour une assemblée,
oui,
donc
oui,
on peut voter tous les ans. Mais enfin, ça va être la pagaille aussi. Et ça risque d'amener à une assemblée de nouveau ingouvernable sans majorité. Par ailleurs, si on change sans arrêt de Premier ministre parce qu'il n'y a pas de compromis, ça va amener aussi le pays au chaos. Et donc sa réflexion, c'est de dire le président de la République est la clé de voûte de nos institutions.
Oui.
Le président de la République, il est le garant de l'essentiel. Il est le garant de la cohésion nationale. À un moment donné, est-ce que collectivement, calmement, sereinement, on peut se poser la question de savoir si le président de la République ne pourrait pas débloquer la situation en réfléchissant à une élection présidentielle anticipée pour permettre aux Français d'avoir un grand débat démocratique et de choisir les nouvelles orientations dans
Mais
le pays pour amener de la clarté.
Alors permettez-moi de vous dire, Pierre-Yves Bournazel, vous êtes un politique et pas des moindres. C'est une façon très diplomatique de dire « il faut qu'il parte ».
C'est une façon de dire qu'il n'est pas interdit de se poser la question du rôle du président de la République dans le déblocage.
Est-ce qu'il est le problème?
Incontestablement, le président de la République est élu pour 5 ans. Il
oui.
peut aller jusqu'au bout de son mandat.
Oui.
Je ne suis pas un putschiste et je n'ai pas la tête d'un putschiste. Et donc, s'il souhaite aller jusqu'au bout de son mandat, il faut respecter cela. Mais il peut débloquer, comme le général de Gaulle l'a fait en 69, la situation en prenant ses responsabilités, en disant calmement et sereinement, eh bien, avant le terme de mon mandat, je peux donner la parole aux Français en leur permettant d'avoir la liberté de se donner un nouvel élan.
Ouais. Et c'est ça la démocratie.
Parce que sinon, c'est la chienlit.
Beaucoup de Français n'ont pas compris comment un Édouard Philippe, qui a été le premier Premier ministre du président de la République...
Mais parce qu'il dit qu'il faut mettre les institutions...
Et qui trahit quelque part son président. Quoi.
Mais non. L'idée, c'est de dire qu'il faut qu'on remette nos institutions en ordre de marche.
Ouais.
Et si le blocage vient du plus haut, alors il faut trouver des solutions pour débloquer. Parce que si notre pays s'approche du précipice, on peut faire semblant de ne pas le voir, de ne rien dire... Mais on se fait le jeu de l'extrémisme politique et notre pays peut basculer. Et à un moment, le sursaut républicain dont je parlais tout à l'heure,
oui,
c'est la capacité à reprendre le destin du pays en main et en permettant aux Français un moment de choisir leur avenir. Et rien dans notre pays ne se passe sans l'élection essentielle, l'élection suprême, c'est-à-dire l'élection du président de la République. Mais c'est un choix après souverain du président de la République et c'est en conscience et en responsabilité qu'il devra, à un moment donné ou pas, choisir d'avancer ou non le calendrier.
Alors, je le disais, vous êtes candidat donc pour Paris. Est-ce que, juste une dernière question sur la situation globale, après on va faire, bien sûr, on va zoomer sur Paris, il y a tellement de choses, vous avez même écrit sur Paris. Est-ce que la déliquescence de la nation vous inquiète aujourd'hui?
Oui.
Et dans quelle mesure?
Oui, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que je vois la haine de l'autre monter en puissance. Je vois du délitement social, je vois ce délitement démocratique et oui, je suis très inquiet. Je suis un élu de terrain dans le 18e, l'arrondissement que j'aime et où j'ai tissé
beaucoup de
relations et de beaucoup de fidélité. Et je vois bien que beaucoup de citoyens sont inquiets, en colère ou désabusés. Il faut tracer un autre chemin. Et ce chemin passe par d'abord beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, beaucoup de considération. Et ensuite, il faut être capable de donner une vision. La vision de la nation, la vision d'une ville, pour savoir où on va et comment on y va. Et pourquoi il faut le faire ensemble, parce que la démocratie, c'est faire ensemble.
Tout à fait.
Et il faut peut-être revenir à ses fondamentaux. Donc oui, je suis inquiet de la situation. Dans un contexte géopolitique chaotique et dangereux, nous avons la guerre sur le sol européen,
ouais,
l'agressivité de Poutine... continue. Monsieur Trump, on ne sait pas s'il va faire blanc, s'il va faire noir, s'il va changer d'avis, mais en tout cas...
C'est la future nouvelle de la paix, puisqu'il dit qu'au changement,
il
y aura la paix.
Mais hein, vous savez, Monsieur Trump, il est imprévisible, et pour l'instant, il s'attaque aux intérêts de l'Europe, aux intérêts de la France, sur le plan économique, comme sur le plan diplomatique. Et c'est peut-être dangereux pour notre sécurité, pour la paix.
Ces raisons, justement, beaucoup de politiques, et on les a entendus sur pas mal de plateaux, dire qu'il ne faut surtout pas toucher à la fonction présidentielle. C'est-à-dire, le président, il doit rester jusqu'à la fin de son mandat. En raison de la situation internationale,
mais
justement, qui nous impose. Justement.
Le président de la République peut rester, bien sûr, jusqu'à la fin de son mandat. Il a été élu pour 5 ans.
Il l'a dit, d'ailleurs.
Mais la question, c'est de savoir s'il a toujours la force, l'autorité pour peser sur le destin de la nation et pour protéger les intérêts essentiels de la nation. Parce que, justement... Quand l'autorité de l'État s'affaiblit chaque jour, qu'il y a un délitement social, qu'il y a un délitement démocratique, qu'on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas réformer parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, qu'une dissolution ne serait pas la solution, que les changements de gouvernement affaiblissent chaque jour un peu plus la France sur la scène européenne internationale, il n'est pas en tout cas interdit de se poser la question, est-ce qu'on pourrait débloquer par le haut la situation? C'est juste une question, parce qu'elle est essentielle. L'intérêt du supérieur du pays doit commander. Et je le redis,
au-dessus de tout,
et le général de Gaulle l'a fait en 69.
Ouais.
Donc c'est chacun en conscience, calmement, sereinement, pour avoir un débat de fond. C'est pas la destitution que veut M. Mélenchon, de force. Tout ça n'aurait pas de sens. Il faut respecter les institutions, il faut respecter les calendriers. Mais parfois, l'histoire s'accélère et qu'il faut être à la hauteur des circonstances de l'histoire.
Alors, avant de marquer cette pause, justement, juste une dernière question, parce que beaucoup de citoyens n'ont pas compris un peu l'incohérence dans l'attitude d'Édouard Philippe. Il a dit qu'il ne voulait pas participer donc, au gouvernement Le Cornu II, mais après, on voit effectivement qu'il y a quand même deux portefeuilles. C'est bien, il y en a Imam Mouchou et un deuxième...
Alors, vous savez, en ce moment, c'est très compliqué. Hein.
Oui, alors,
moi-même, j'ai...
Participe, ne participe pas. Il participe parce qu'il y a
Horizon,
quand même des ministres
Horizon. Horizon a dit sa position. Horizon a dit, à partir du moment où on ne sait pas ce que veut faire précisément le gouvernement, on ne participe pas parce que nous considérons que c'est le quoi qui compte. On va aider ce gouvernement parce qu'on veut la stabilité, donc on veut qu'il y ait un budget pour la nation, donc on ne va pas le censurer.
Ce qu'il a fait, en fait.
Voilà, et donc on ne participe pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire le gouvernement. Certaines personnalités Horizon ont souhaité quand même participer à ce gouvernement. C'est leur droit, titre individuel. Nous, on est un jeune parti, on n'est pas dans les logiques d'exclusion.
On n'a pas été exclu par Edouard Philippe, non.
Mais ça n'a pas d'intérêt, on ne va pas créer
non,
une série...
Non, parce qu'on a vu chez les LR les exclusions des six ministres, en l'occurrence.
Il faut garder, dans les périodes de crise, son sang-froid, la tête froide. Il faut être lucide et il faut faire avec les réalités d'une situation qui est compliquée, qui est compliqué à expliquer, qui est compliqué à appréhender, même quand on en est un des acteurs. Donc, un peu de modestie, un peu d'humilité pour chacun et le sens de l'intérêt du pays.
Alors, Pierre-Yves Bournazel, nous allons marquer une petite pause, une très très courte pause. Et puis, dans la deuxième partie, on va bien sûr faire un grand focus sur Paris, puisque vous êtes
avec plaisir
là pour Paris. À tout de suite.
À visage découvert. L'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.